www.radioscoop.fr.
Danser à Andard avec Damien Le Goff. L'association Brin d'Art Création de la commune de Loire-Authion organise le dimanche 25 janvier 2026 de 14h30 à 19h30 à l'espace Jeanne de Laval à Andard un après-midi dansant avec l'orchestre A4 de Damien Le Goff. L'entrée est à 12€ avec une viennoiserie et une boisson chaude comprise. De 14h30 à 19h30 le dimanche 25 janvier 2026.
Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Ah, les connaissances scientifiques, ces savoirs précieux qui flottent dans les airs ou dans nos têtes. C'est ce qu'on peut imaginer quand on pense à la science, quelque chose qui existe par elle-même. Mais que serait la science sans notre environnement matériel, sans nos bureaux, nos outils, nos instruments de mesure? Et si la matérialité impactait les savoirs scientifiques et inversement? C'est le sujet du jour pour cette nouvelle émission du Labo des Savoirs. Avec nous à distance, nous recevons pour cette émission Lisa Rouchetet. Vous êtes enseignante-chercheuse en histoire des sciences. Vous êtes rattachée au centre François Viette de l'Université de Bretagne Occidentale à Brest. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à toutes et à tous.
Et nous entendrons également dans cette émission Émilie Chevalme, responsable de la mission régionale du patrimoine scientifique et technique contemporain de Nantes Université, au micro de Célie, qui est allée visiter une réserve d'objets scientifiques. Une chronique de Victor qui nous parle d'un objet scientifique qui continue de révolutionner la science, le microscope. Une chronique de Cristal qui nous parle d'un objet scientifique qu'on aurait peut-être toutes dans nos poches, notre téléphone. Vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs.
Le Labo des Savoirs, l'émission activatrice de Synapse, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois sur les ondes et en podcast.
Alors, je l'ai dit en introduction de cette émission, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est la matérialité des savoirs scientifiques. Tout a commencé l'année dernière, quand j'ai eu l'occasion de lire l'ouvrage « Voir les savoirs, lieux, objets et gestes de la science » de Jean-François Berthe et Jérôme Lamy, aux éditions Anamosa, sorti en 2021. C'est un ouvrage scientifique accessible et illustré. Jean-François Berthe est sociologue et histoire des sciences sociales à l'Université de Lausanne. Et Jérôme Lamy est historien et sociologue des sciences, chercheur au CNRS. Le propos est très clair. Il s'agit de réincarner, de resituer les savoirs scientifiques. C'est parfois l'objet d'une discipline scientifique dont on entend assez peu parler dans les médias ou dans les journaux, l'histoire des sciences. C'est la raison pour laquelle nous accueillons aujourd'hui Lisa Rouchetet. Lisa Rouchetet, je le rappelle, vous êtes enseignante-chercheuse en histoire des sciences, aussi appelée épistémologie. Alors avant de commencer cette émission, j'aimerais faire un point de définition. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste, l'histoire des sciences?
Waouh! Alors bon, c'est déjà une question effectivement très large, parce que avant même de définir l'histoire des sciences, il faudrait peut-être aussi qu'on s'attelle à la définition de ce qu'on appelle science. Et ça, vous m'avez pas posé la question, donc j'y répondrai pas. Si on devait dire les choses de façon un petit peu simplifiée, parce que c'est le but aussi de comprendre en fait les enjeux de cette discipline, eh bien, c'est d'essayer de comprendre en fait sous différents aspects. Et c'est intéressant que vous l'ayez proposé aujourd'hui, c'est les aspects aussi matériels. Il n'y a pas que des aspects de connaissance, en fait. Donc, on va dire de l'évolution, de la constitution des sciences, des savoirs scientifiques, en fait, depuis la nuit des temps jusqu'à avant-hier, puisque c'est une histoire, donc c'est sur un temps long, avec bien évidemment des fois des focus sur des aires géographiques, des périodes historiques, selon bien évidemment les sciences qu'on regarde ou ce qui nous intéresse aussi dans un aspect scientifique. Donc les sciences, essentiellement, on va définir ça comme étant les sciences qu'on appellerait peut-être plus expérimentales aujourd'hui. Je vais m'abstenir de dire les sciences dures pour ne pas dire les sciences molles parce que je déteste cette dichotomie entre guillemets. Donc ça va être des sciences telles les mathématiques, telles les sciences et vie de la Terre, telles la médecine, l'astronomie, la physique, la chimie, j'en passe bien d'autres, mais ce qui rentre dans une catégorie de sciences plus générales. Et donc s'intéresser à cette histoire, c'est une histoire à la fois des savoirs, de leur circulation, de leur transmission, mais aussi des savoirs finalement en lien avec des personnes, c'est s'intéresser à des acteurs, à des actrices aussi, parce qu'il n'y a pas que des acteurs dans la science, c'est s'intéresser, comme vous l'avez très bien dit en introduction, à des lieux où se font la science, où se font des échanges. Ça peut être des lieux matériels ou des lieux d'échanges immatériels, comme ce qu'on appelle des réseaux, par exemple. Donc voilà, il y a beaucoup de notions aussi empruntées à l'histoire, mais finalement aussi à la sociologie, à l'anthropologie, à l'ethnologie, qui peuvent rentrer dans l'histoire des sciences de manière générale. Mais on va dire, pour faire simple, c'est l'histoire du développement et de la circulation des savoirs scientifiques.
C'est passionnant. Vous, spécifiquement, vous êtes spécialisé dans l'histoire des sciences mathématiques et même des jeux combinatoires. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ça concerne quoi exactement déjà l'histoire des mathématiques et que sont les jeux combinatoires?
Donc, deux questions qui sont pour le moment distinctes et je vais essayer de montrer le pont entre les deux. Donc, l'histoire des mathématiques, si on transpose un peu l'histoire, la définition que je vous ai donnée de l'histoire des sciences, elle se décline aussi pour l'histoire des mathématiques. Donc, ce serait comprendre en fait le développement, l'évolution de la pensée mathématique, des résultats mathématiques, mais aussi donc d'intégrer ça dans une histoire, sociale, dans une histoire humaine, dans une histoire aussi institutionnelle, voire même des fois économique ou religieuse. Il y a des aspects aussi qui rentrent dans le développement des mathématiques et qui sont à prendre en compte. Selon effectivement aussi les périodes historiques qu'on regarde, on va pas regarder les mêmes choses, les mêmes développements mathématiques, bien évidemment. Ça, c'est pour la réponse très générale. Ensuite, pour ce qui concerne donc les jeux combinatoires, donc effectivement, on pourrait se poser la question de qu'est-ce que c'est que ces jeux particuliers et qu'est-ce qu'ils ont de mathématiques. Ce sont des jeux en fait qui se déclinent sous plein de formes différentes, bien souvent sous des jeux de plateau en fait, ou des jeux où il y a une petite matérialité, on va devoir bouger des pièces, etc. Ce sont des jeux qui ont des caractéristiques bien particulières, c'est-à-dire que c'est des jeux où il n'y a que deux joueurs. Donc il n'y a que deux personnes autour d'une table, par exemple. Ce sont des jeux où on joue alternativement, donc un coup après l'autre. Ça paraît peut-être un peu bizarre que je dise ça, mais par exemple, pierre, feuille, ciseaux n'est pas un jeu combinatoire puisqu'on joue de façon simultanée. C'est des jeux où il n'y a pas de hasard, donc vous excluez tout ce qui va être lancé de dés, tirage de cartes, et c'est là où on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeux, en tout cas de jeux de société qu'on pratique aujourd'hui, qui sont basés en fait sur des générateurs de hasard, on appelle ça comme ça. Et ce sont des jeux qui bien souvent en fait ont une fin. Alors ça paraît aussi bête de dire ça, mais quand on est finalement en mathématiques, on peut aussi s'intéresser à des cadres où l'infini pointe le bout de son nez, et là dans le cadre des jeux combinatoire, on considère qu'au bout d'un moment, il y a une fin de partie après un certain nombre fini de coups d'échanges entre deux joueurs. Et en fait, la dernière particularité, c'est qu'il y a, il y a une fin de partie qui finalement amène sur une partie nulle ou une partie qui est gagnante pour un joueur et perdante pour l'autre. Ce sont des jeux qu'on appelle des jeux déterminés, en fait, pour lesquels, en théorie, je dis bien en théorie, il existe une stratégie gagnante qui permettrait au premier ou au deuxième joueur, en tout cas à celui qui a la stratégie gagnante et qui la connaît et qui est capable de la mettre en œuvre du début à la fin du jeu, de gagner à coup sûr à ce jeu combinatoire. Voilà. Donc des exemples très connus pour n'importe qui, c'est les exemples génériques que je prends. Le jeu d'échecs est un jeu combinatoire. Le jeu qu'on appelle le jeu du morpion en français, qui est nommé tic-tac-toe en anglais, c'est un jeu combinatoire. Le puissance 4, tous les jeux un peu de plateau type dame, go, etc. sont des jeux combinatoires. Et en fait, il y a plein d'autres exemples. Et il y a plein d'exemples aussi historiques qui sont intéressants à regarder.
Et à quel point, du coup, ces objets combinatoires, ils sont faciles, entre guillemets, à trouver dans l'histoire des mathématiques? Je me demande dans quelle mesure, je sais pas, on pourrait imaginer que c'est un petit pourcentage, en fait, des objets scientifiques ou de la matérialité du savoir scientifique, ou est-ce que c'est très représentatif? Et je me demandais aussi depuis quand ça existe, si on a une idée, voilà, en termes de traces historiques, si ça remonte à quelques millénaires ou quelques siècles.
Il y a deux choses qu'il va falloir distinguer en fait si on prend justement ce côté datation des jeux combinatoires. Bon, déjà j'ôte toute ambiguïté, c'est que le nom jeu combinatoire donc vient de l'anglais combinatorial games, qui est une terminologie en fait qui est apparue dans les années 1970-1980, donc très très récemment finalement sur l'histoire sur l'échelle de l'histoire des jeux et de l'histoire de l'humanité de manière générale. On va dire la considération mathématique et le développement mathématique autour de ces jeux-là est plutôt récent. C'est-à-dire que en termes de fondement d'une théorie mathématique, si je prends les choses de façon très large, on va être sur une constitution au début, enfin plutôt la fin du 19e, début du 20e siècle, jusqu'à une expansion dans les années donc 1970-1980 jusqu'à aujourd'hui. Néanmoins, les objets sur lesquels justement les personnes qui travaillent en théorie des jeux combinatoires, parce que donc, c'est une discipline mathématique qui existe, travaillent sur des objets qui sont en fait bien plus anciens. C'est-à-dire sur des jeux qui ont évidemment une histoire beaucoup plus longue. Et donc, on pourrait bien évidemment dater en fait ces jeux combinatoires, par exemple des jeux où on a des alignements de pions sur un plateau, ou des jeux où on doit capturer les pions de son adversaire, ou bien remporter une bataille sur un champ de bataille, parce que typiquement le jeu d'échecs, c'est quand même un peu cette idée qu'il y a derrière. Ce sont des jeux qui sont bien plus anciens et il existe des exemples depuis l'Antiquité et même la Mésopotamie, bien évidemment. Néanmoins, c'est pas pour autant qu'on a une analyse mathématique de ces jeux-là à cette époque-là. Donc, vous voyez, il y a deux temporalités. En fait, il y a l'histoire du jeu, des matériaux de jeu, des règles du jeu, donc vraiment la culture ludique en tant que telle. Et puis après, il y a le traitement mathématique de ces objets-là, qui pour le coup est plus récent.
Et donc, j'imagine que quand on travaille dans le domaine de l'histoire des sciences mathématiques, plus particulièrement sur les jeux combinatoires, vous allez chercher ces sources-là qui existent, ces archives en quelque sorte, qui datent de l'Antiquité, il n'en reste peut-être pas énormément, mais de quelques siècles, il doit y avoir des archives qui témoignent de comment on utilisait un jeu, dans quel contexte il était utilisé. Voilà, parce que je me demandais avec qui ou avec quoi vous travaillez du coup dans votre domaine de recherche.
Alors il y a un aspect qui est typiquement le travail de l'historien, même historien de manière générale, qui est effectivement la source ou l'archive, le document écrit, conservé quelque part, qui est numérisé ou qui ne l'est pas. Donc là pour les documents plus anciens, donc quand je parle des documents du 15e, du 16e, du 17e siècle, il y a beaucoup qui sont numérisés en fait, ou bien qu'on va consulter dans des archives. Je vous avoue que c'est un peu la difficulté quand on travaille sur les jeux, ça l'est encore un petit peu maintenant, c'est rarement considéré comme un objet mathématique sérieux. C'est assez difficile en fait d'aller trouver une continuité dans un archivage, ou de se dire je sais que je vais ouvrir un carton et je vais trouver plein de choses sur le jeu. Ça va souvent être du saupoudrage quelque part dans un article ou dans un ouvrage où on va en parler, mais c'est pas du tout l'objet principal en fait de l'ouvrage en question. Je vous donne un exemple pour illustrer un peu ce que j'avance. Jérôme Cardan, donc un mathématicien italien qui est sur le 16e siècle, va en fait écrire tout un ouvrage sur plein de choses en mathématiques et va à un moment donné nous parler d'un casse-tête mathématique qu'il appelle un instrument de passe-temps, je trouve le terme extrêmement bien choisi, en disant c'est un objet qui en soi est complètement inutile. J'ai trouvé intéressant de donner quelques infos mathématiques dessus, enfin il ne le dit pas comme ça bien évidemment, mais en disant en s'intéressant en fait à ce qu'on doit faire pour résoudre ce casse-tête mathématique, qui est qualifié de mathématique parce que derrière on peut le traduire avec le système binaire, etc. etc. Et en fait, si vous ne savez pas qu'à un moment donné il va parler de ce casse-tête au milieu de d'autres plein de sujets beaucoup plus, entre guillemets, qualifiés sérieux, vous passez à côté. Il ne va pas avoir rédigé quelque chose spécifiquement sur le casse-tête ou sur les jeux de manière générale. Non, alors c'est faux pour Cardan parce qu'il l'a fait, mais sur les jeux de hasard, il a écrit tout un traité sur le Liber de Ludo Aleae, mais on s'éloigne des jeux combinatoires. Mais voilà, en fait, il faut essayer d'aller traquer des auteurs où potentiellement ils auraient écrit des choses sur les jeux, jusqu'à ce que finalement, au XVIIe siècle, se forme un genre éditorial et littéraire assez nouveau en France, en tout cas, et puis après ça va prendre un peu en Europe, qui est le genre en fait qu'on appelle des récréations mathématiques. Donc, c'est des ouvrages avec des compilations en fait de problèmes de nature mathématique, alors que ce soit arithmétique, géométrique, vont entrer ensuite en ligne de compte des problèmes en lien avec de la science physique, de l'électricité, de la pyrotechnie, de l'optique, enfin les sciences de manière plus large. Mais dans ces problèmes, enfin dans ces collections de problèmes au début, on va retrouver en fait voilà des situations de jeu, des situations par exemple ce qu'on appelle des tours de magie un peu mathématiques, voilà, penser à un nombre, multiplier le par 2, enlever 5, faites ci, faites ça, puis moi je vous trouve votre nombre à la fin, c'est de la mathémagie en quelque sorte, c'est de l'arithmétique derrière, et ça, voilà, ces premiers ouvrages en fait entièrement dédiés, on va dire, à un divertissement mathématique et dans lesquels on va retrouver des pseudo-analyses de jeux en termes de stratégie, bah, ça va être vraiment au début du XVIIe siècle avec ces ouvrages de récréation mathématique.
Et c'est un travail de fourmi, moi, de ce que je comprends. Est-ce que ça vous arrive de travailler ou d'aller voir peut-être dans des réserves de musées, par exemple, des objets qui existent peut-être encore, qui ne sont parvenus jusqu'ici, qui ont été sauvegardés
Et dont on ne connaîtrait pas l'usage, par exemple, c'est ça votre question ?
Dont on connaîtrait l'usage ou dont on ne connaîtrait pas forcément l'usage, mais voilà, je me demande si, au-delà des archives, il y a des...
Il y a encore alors des pour objets. Ça c'est sûr, oui, en fait. Alors pour alors effectivement, moi je le fais moins ces derniers temps, mais il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est effectivement aussi le côté donc matériel. C'est aussi pour ça qu'on est dans cette émission, sur le côté matérialité des savoirs et sur le côté matériel donc de ces fameuses récréations mathématiques, donc ce qui va concerner des jeux, des casse-têtes, etc., où il y a une forte manipulation sur l'objet, et donc c'est ça qui est aussi intéressant et important de regarder. Alors ça m'arrive d'aller dans des musées, de regarder. C'est vrai que je l'ai fait il y a pas si longtemps que ça, finalement. J'étais au musée de Cluny il y a pas moins de 2 semaines pour m'extasier devant cette magnifique boîte de jeux qui date certainement du 15e siècle et qui est une des premières boîtes en fait un peu multi-jeux, en fait, un peu comme nos boîtes de voyage où on partait, puis sur un côté il y avait les petits chevaux, sur l'autre côté il y avait l'échiquier, et puis on tirait des tiroirs et puis il y avait d'autres jeux. Bah là c'était à peu près la même idée, sauf que voilà, c'est en ivoire, en nacre et en d'autres matériaux bien plus nobles que notre plastique actuel. Et en fait voilà, je vais voir aussi des objets dont j'ai entendu parler dans mes recherches et qui m'interpellent aussi, parce que il y a un côté où bon, j'ai pas pu ouvrir la vitrine et le manipuler de mes propres mains, mais de voir comment il est articulé, comment est-ce qu'on peut penser justement une manipulation en fait de cet objet-là. Donc ça c'est intéressant. Donc ça c'était une boîte de jeu. Et après j'ai des fois la chance d'aller chez des personnes qui sont des collectionneurs en fait de jeux, qui ont développé une passion depuis qu'ils sont très jeunes et qui ont des centaines et des centaines et des centaines, pour ne pas les compter, eh bien de boîtes de jeux ou de casse-têtes qui s'entassent chez eux et qui ont des fois des formes que j'avais jamais vues en fait. Donc je découvre aussi des casse-têtes comme ça. Puis des fois les personnes ne savent même plus non plus comment les casse-têtes se résolvent, mais c'est aussi intéressant de voir l'objet et en fait le côté au-delà de le voir, c'est de le manipuler et de regarder ce qu'on peut en faire en fait. Donc je ne dis pas tous les casse-têtes ne sont pas mathématiques, hein, loin de là. Il y en a qui sont qui ne nécessitent pas un savoir mathématique pour pouvoir le résoudre ou en tout cas le formaliser après, mais ça reste intéressant de regarder un objet et de pouvoir le toucher en fait. Enfin, c'est le rapport à la matérialité qui est aussi important, mais ça marche pour autre chose que des jeux. C'est assez transposable en fait cette réflexion.
Oui, dans ce cadre-là, je me suis dit, potentiellement, ça doit être intéressant de confronter un peu ce qu'on peut lire dans les archives, ou en tout cas l'analyse qu'on peut en faire, parce que c'est pas toujours évident pour les personnes des précédents siècles de décrire ce qu'elles avaient en tête ou comment les manipuler versus la réalité, comment l'objet est vraiment fabriqué, comment il est arrangé.
Ah bah là, vous pointez un aspect qui est extrêmement important, dans le sens où je vous donne un exemple sur ce que j'ai moi-même travaillé, donc sur un casse-tête. Donc, qui s'appelle le casse-tête du Bagnaudier, qu'on connaît à minima depuis le 15e siècle, en fait, donc par les sources textuelles. Et en fait, les sources textuelles décrivent l'objet avec bien souvent aucune illustration à côté ou aucun, ne serait-ce que ersatz de dessin pour expliquer ce que c'est. Et en fait, si vous n'avez pas l'objet devant le nez, c'est incompréhensible de savoir de quoi on parle, en fait. C'est quand on connaît l'objet qu'on se dit « Ah !» Ah, il parle de ça. Ah, on est au 15e siècle et il me parle là d'un objet que je connais depuis à minima la fin du 19e. Donc, c'est ça. Et ça fait sens. Et en fait, si je n'avais pas vu l'objet avant, si je ne l'avais même pas manipulé, j'aurais aucune idée de ce qu'il est en train de parler. Et en fait, je me dirais, oh, c'est un objet qui n'existe plus. Ou voilà, qui a eu un temps au 15e, 16e, puis dont on a plus l'existence. Ben, en fait, si. D'où l'idée, effectivement, d'articuler les sources. Des sources iconographiques, si on en a, des sources textuelles, et puis des sources qu'on peut manipuler, en fait, qu'on peut voir. Donc, avoir une bonne connaissance de ce qui se fait, si je reviens sur mes jeux et mes casse-têtes, en fait, ne serait-ce qu'aujourd'hui, des fois, ça me donne des idées sur ce que les auteurs sont en train de décrire. Qu'est-ce qu'ils sont en train de décrire, en fait, là, comme casse-tête, et qu'est-ce que je suis censée faire dessus. Si je n'ai pas d'idée de représentation visuelle de ce que c'est un vrai casse-tête pour vraiment savoir ce dont ils sont en train de parler, quoi.
Alors, ce n'est pas un jeu, mais c'est un instrument de mesure qu'on apprend à manipuler au lycée, mais d'où l'importance d'apprendre à manipuler. Un des objets scientifiques par excellence qui nous vient en tête quand on pense notamment aux scientifiques dans les laboratoires, c'est le microscope. Et c'est justement le sujet de ta chronique, Victor.
Tout à fait, Julie. Et pour commencer, un peu d'étymologie. On retrouve les termes grecs mikros, petit, et scopein, regarder. On est donc littéralement en présence d'un objet qui permet de regarder ce qui est petit. Les microscopes les plus connus sont les microscopes dits optiques, c'est-à-dire qu'un système de lentilles et d'éclairage permet d'observer un objet avec un certain grossissement, ce qu'on utilise au lycée par exemple. On verra par la suite que ce n'est pas la seule méthode existante.
Et depuis quand ça existe le microscope ?
Eh bien, c'est assez difficile à dire selon ce qu'on considère comme étant de la microscopie ou pas. Des fouilles archéologiques en Irak et en Grèce ont par exemple mis en évidence des disques de quartz polis datant du 8e ou 7e siècle avant notre ère. Même si les chercheurs ne sont pas unanimes sur leur fonction, certains considèrent qu'il s'agit de loupes en faisant les premières traces d'objets servant à grossir ce que l'on voit. Si on reste dans l'Antiquité, l'auteur romain Pline raconte une anecdote selon laquelle l'empereur Néron avait l'habitude d'utiliser une émeraude polie pour mieux distinguer les combats de gladiateurs. Maintenant, si on se concentre sur la microscopie telle qu'on la connaît, il faut faire un petit bond temporel jusqu'à la Renaissance. Les historiens sont incertains sur la date ainsi que l'identité des inventeurs de la microscopie, mais on cite généralement Hans et Zacharias Janssen, des fabricants de lunettes hollandais qui auraient eu l'idée à la fin du XVIe siècle de superposer des lentilles dans un tube afin de grossir un objet. Galilée reprend l'idée en 1609 avec son occhiolino, littéralement un clin d'œil, et c'est à la moitié du XVIIe siècle que le drapier hollandais Anthony van Leeuwenhoek est le premier à utiliser un microscope pour des études biologiques. Sa description des animalcules, essentiellement des bactéries ou de très petits animaux, ouvre la voie à une nouvelle branche de la biologie que l'on appellera plus tard la microbiologie.
Et du coup, le microscope, c'est un objet historique, on vient de l'entendre. On a tous en tête l'image du scientifique un peu fou ou de la scientifique un peu folle l'utilisant dans son laboratoire secret. Mais est-ce qu'il permet encore de faire des découvertes à l'heure actuelle ?
Eh bien, totalement. Il s'agit toujours d'un outil crucial pour de nombreux champs de recherche, et notamment en biologie, où il permet d'étudier le vivant en détail à de très petites échelles. Le tout grâce aux avancées en physique et en chimie. En effet, les progrès dans la compréhension des lois de l'optique permettent de dépasser la résolution classique des microscopes à lentilles simples de l'époque. On parle de super résolution pour ces techniques qui permettent de visualiser des objets mesurant parfois quelques dizaines de nanomètres, ce qui représente un point 1 million de fois plus petit que la tête d'une épingle. Les scientifiques Eric Betzig, William Werner et Stefan Hell se sont d'ailleurs vus décerner le prix Nobel de chimie en 2014 pour leur participation à l'émergence de la microscopie à très haute résolution, parfois appelée nanoscopie. En couplant ces techniques à des molécules fluorescentes qui permettent de mettre en évidence des structures spécifiques dans un échantillon, les scientifiques de l'Institut Pasteur ont ainsi pu observer l'interaction entre les cellules immunitaires et des particules virales du virus Zika. Observer le monde microscopique est ainsi crucial pour comprendre et traiter de nombreuses maladies infectieuses. Ces innovations techniques ont tout de même un coût. En 2018, l'Institut Pasteur se dote du Titan Cryos, un des microscopes les plus puissants du monde, pour un montant estimé à plusieurs millions d'euros. Enfin, je parle depuis le début de cette chronique de la microscopie, mais il serait plus juste de dire les microscopies. En plus de la microscopie optique, les avancées scientifiques du XXe siècle ont permis de développer d'autres méthodes pour observer des échantillons. La microscopie électronique utilise ainsi des électrons à la place des photons contenus dans la lumière naturelle. ce qui permet de dépasser les limites liées à la microscopie optique. Avec cette technique électronique, des chercheurs ont ainsi pu imager des atomes de carbone individuels au sein de cristaux, ce qui représente un grossissement d'un facteur 50 millions par rapport à l'œil nu. Autre méthode, la microscopie dite à sonde permet de cartographier un échantillon. À la manière du braille, c'est la différence de relief entre deux points très proches qui permet de reconstruire la structure globale d'un objet d'étude. Avec ces microscopes, il est ainsi possible de voir une molécule individuelle d'ADN, ce qui permettrait potentiellement de mieux comprendre ses mécanismes de réplication.
Oui, c'est impressionnant et ça me donne très envie de lire davantage sur les microscopes et les microscopies. Donc on est bien loin effectivement des loupes de l'Antiquité quand même. Et sans ces objets scientifiques, pas de découverte microscopique.
En effet, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec les progrès de la microscopie, on peut étudier des objets infiniment petits avec une précision jamais atteinte auparavant. La microscopie a fait des progrès dantesques depuis son invention au XVIe siècle et on peut maintenant observer des particules individuelles, ce qui est un atout précieux pour la recherche scientifique, qu'il s'agisse de physique, de chimie, de géologie ou de biologie. Malgré ses plus de 400 ans d'existence, la microscopie n'a pas pris une ride et a su avancer de pair avec les progrès scientifiques. Et on ne peut qu'imaginer la surprise d'un Leeuwenhoek du XVe siècle s'il pouvait voir le niveau de détail que l'on est capable d'apprécier aujourd'hui. Une chose est sûre, vous n'avez pas fini d'entendre parler de la microscopie et de ses progrès énormes.
Merci beaucoup Victor pour cette première chronique au Labo des Savoirs. Faisons une pause dans cette émission sur les objets porteurs de savoir en écoutant Vénus de Bada Bada.
We'll be right back. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
C'était Vénus de Badabada. Nous sommes de retour à distance avec Lisa Roucheté, enseignante-chercheuse en histoire des sciences mathématiques à l'Université Bretagne Occidentale à Brest. Avant la pause musicale, on parlait plutôt de définition et de l'histoire matérielle de la recherche. Mais le terme d'objet porteur de savoir inclut également des objets non utilisés couramment dans les laboratoires, mais qui peuvent induire des connaissances par la manipulation notamment. On évoquait l'exemple du bagnaudier. Alors j'ai laissé un peu en suspens le mystère s'installer sur ce bagnaudier, mais désormais Lisa, pouvez-vous nous en dire un peu plus? En quoi consiste ce jeu? Est-ce que vous pourriez nous le décrire? Et qu'est-ce qu'on apprend en étudiant finalement la manipulation des utilisateurs et utilisatrices?
Alors, le décrire, là, voilà, ça, c'est le piège. J'invite les auditeurs et les auditrices à aller se faire une représentation en tapant bagnaudier jeu, parce que sinon, vous allez tomber sur un arbre. Et donc, c'est assez déroutant. C'est un jeu qui s'appelle, enfin, un casse-tête qui s'appelle le Chinese Rings en anglais. Donc, c'est aussi une autre façon de le retrouver. En gros, on appelle ça un casse-tête, donc, mécanique, puisque il va falloir, agir dessus. C'est un objet matériel qu'on appelle de désenchevêtrement. Voilà, j'ai réussi à le dire une fois, je ne le dirai pas une deuxième fois, c'est difficile à dire, dans le sens où en fait on a un objet qui initialement forme un tout avec donc une partie oblongue en métal bien souvent qui a la forme d'un ovale qu'on va appeler une navette et dans laquelle sont enchevêtrés en fait des anneaux. Alors les anneaux sont aussi solidaires les uns avec les autres par le biais d'un système dont je me passerai de commentaires, mais le but est en fait donc de désenchevêtrer les anneaux de la navette. Donc là, on a une position initiale qui est une espèce d'embroglio d'anneau dans une navette. Et puis, la position terminale, finale, le but du casse-tête est donc de désolidariser complètement les anneaux et d'avoir la navette de l'autre côté. Donc, de se retrouver avec un objet finalement en deux parties. Donc voilà, donc alors bien évidemment, c'est pas bien évidemment, mais l'idée derrière, c'est donc d'avoir des actions sur ce casse-tête, un enchaînement en fait d'actions et de mouvements à faire sur ce casse-tête qui, au fur et à mesure, eh bien, vont libérer les anneaux les uns après les autres. Quand je dis les uns après les autres, c'est sans que ce soit forcément d'abord le premier anneau, ensuite le deuxième anneau, ensuite le troisième anneau, ensuite le quatrième anneau, etc. Donc, je ne l'ai pas précisé, mais la plupart des bagnaudiers ont en moyenne, je dirais, 9 anneaux, mais on en trouve à 5, on en trouve à 11, et il y a eu des versions à 13. En général, c'est un nombre impair. Donc, le plus classique, celui qu'on trouve en ce moment dans le commerce, ça va être 5 ou 9. Et donc, bien évidemment, plus il y a d'anneaux, plus il y a d'opérations à faire et ça va être plus long. Donc il y a un aspect en fait derrière, sans dévoiler la résolution, il y a un aspect en fait algorithmique qui bien évidemment, quand on compte le nombre d'opérations qu'on fait sur le bagnaudier, va en croissant avec finalement le nombre d'anneaux qu'il y a. Qu'est-ce qu'on apprend quand... Alors c'est une excellente question, parce que tout va dépendre en fait de si à un moment donné on cherche à formaliser en fait les savoirs mathématiques qui sont sous-jacents à la pratique de cet objet ou non. Donc pour avoir mené pas mal d'ateliers quand même avec des lycéens notamment sur ce casse-tête, donc en présentant un petit peu l'objet, le côté historique, etc. Faut quand même vendre son fonds de commerce. Et ensuite en laissant des temps de manipulation pour essayer de le résoudre, donc en expliquant la position initiale c'est ça, la position finale c'est ça, qu'est-ce que vous faites sur ce casse-tête. Eh bien en fait on peut apprendre déjà qu'il y a finalement des contraintes que l'objet nous impose, qu'on peut pas enlever n'importe quel anneau à n'importe quel moment, c'est-à-dire que quand je vous disais il faut d'abord enlever le 1 pour peut-être ensuite enlever le 3 pour ensuite remonter le 1 pour ensuite enlever le 2 pour ensuite enlever le 1, enfin donc il faut faire en fait des allers-retours entre je monte des anneaux et je descends des anneaux, hein, parce qu'on peut bien évidemment avoir des anneaux qui sont encore enchevêtrés pendant qu'il y en a qui sont déjà désenchevêtrés. Et l'idée c'est déjà de comprendre que l'objet nous impose des contraintes finalement de gestes, de mécanique en fait sur lui-même, et donc il y a des conditions en fait pour pouvoir monter un anneau s'il était abaissé ou abaisser un anneau s'il était monté. Et donc on arrive petit à petit, si on aide aussi, j'ai toujours fait dans des temps contraints, donc à un moment donné on guide aussi un peu l'utilisateur hein, par des questions, mais c'est d'arriver déjà à une condition qu'on appelle en mathématiques une condition nécessaire et suffisante pour pouvoir dire quand est-ce que je peux abaisser cet anneau ou quand est-ce que je peux baisser cet anneau. Est-ce que je peux avoir une formulation générale, une règle générale, voilà, qui me dirait je peux faire ça de façon sûre et certaine parce que les conditions sont requises sur l'objet et la forme qu'il a et quels anneaux sont montés, quels anneaux sont démontés pour que je puisse être sûre de faire telle action ou telle action. Et une fois qu'on a compris ça, et le comprendre, c'est aussi l'intérioriser d'un point de vue de la manipulation de l'objet. Et c'est en ça que vous ne pouvez pas résoudre. Enfin, je pense que si, il y a des personnes qui sont très fortes et qui y arriveraient, mais on ne peut pas résoudre en fait un baguenaudier sans l'avoir entre les mains et à un moment donné avoir un retour de l'objet et de la matérialité qui nous impose en fait en quelque sorte. Et une fois qu'on a donc intégré ça d'un point de vue peut-être déjà intellectuel mais aussi manipulatoire, bien il y a d'autres questions qui se posent qui là pour le coup si encore une fois si on guide et qu'on est avec des étudiants par exemple, c'est de se dire bon bah voilà, quels sont les mouvements que je peux faire, est-ce qu'on y repère une certaine séquence une certaine régularité mathématique, par exemple, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conséquence ou comme résultat derrière, et puis bah petit à petit on arrive à construire finalement et à montrer les savoirs mathématiques sous-jacents. Ça se fait, à mon sens, obligatoirement avec, je vais appeler ça un médiateur ou une médiatrice, mais avec quelqu'un qui sait et qui montre en fait le rapport avec les mathématiques formalisées occidentales qu'on connaît aujourd'hui. Quelqu'un qui n'y connaît rien en mathématiques va pouvoir quand même résoudre le casse-tête du baguenaudier et en quelque sorte, et c'est ça moi qui m'intéresse, va peut-être se forger sa propre
logique. Comment dire,
sa propre logique, sa propre façon de comprendre l'objet et ses propres règles. Et peut-être que cette fameuse condition nécessaire et suffisante dont je vous parlais, il va l'intégrer où il va la formuler, mais pas de la manière dont moi je la formulerais avec en mobilisant des mathématiques contemporaines en fait. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est ce qui va relever d'une pratique mathématique parce que ça va être en plus très fortement ancré à la matérialité de l'objet, sans forcément du tout manipuler des concepts mathématiques derrière. Et c'est ça qui est assez impressionnant en fait et qui pousse à interroger en fait la nature des savoirs ou des savoir-faire mathématiques. Alors là on parle d'un objet ludique, mais ça peut se faire aussi dans d'autres cas avec d'autres types d'instruments ou d'autres types d'objets en fait.
Et est-ce que du coup manipuler ces objets-là pour de vrai, l'avoir dans les mains, ça permet de faciliter du coup le développement de cette pensée logique, donc de formaliser, c'est-à-dire de mettre des mots du coup derrière voilà les conditions, le protocole, si on peut dire ça comme ça, des étapes à faire pour résoudre le casse-tête. Mais est-ce que ça aide, est-ce que c'est transposable sur d'autres casse-têtes, enfin si moi je suis Lucienne par exemple, est-ce que ça va m'aider à résoudre d'autres casse-têtes, et est-ce que in fine je vais peut-être mieux comprendre quand je vais avoir des cours sur des algorithmes ou des choses comme ça, est-ce que c'est des bases qui sont un peu posées, voilà, d'avoir déjà un peu manipulé et saisi l'ordre des étapes et à quoi je peux aboutir en suivant ces étapes-là.
Je pense qu'il n'y a pas de réponse universelle pour vous dire oui ça va marcher pour tout le monde ou non ça ne va pas marcher pour tout le monde. C'est-à-dire que ça dépend, enfin, c'est aussi assez intrinsèque aux personnes en fait. On le sait, il y a des personnes qui ont plus besoin de visualiser les choses, d'autres qui ont plus besoin de manipuler, etc. Moi je pense que ça contribue à donner du sens. Alors ça marchera pour certains élèves et pas pour d'autres, ou c'est pas que ça marchera pas, c'est que ça ne sera pas nécessaire pour d'autres. Ce qui me plaît dans cette idée là, c'est de sortir en fait les mathématiques de leur nuage éthéré des idées du monde conceptuel intellectuel immatériel en fait. Et je pense qu'il y a un côté vraiment intéressant en mathématiques sur une pratique expérimentale, aussi une pratique manipulatoire qu'on connaît moins, hein, mais aussi parce que c'est pas comme ça qu'on nous les présente non plus, hein, et c'est pas comme ça qu'on nous les enseigne non plus, enfin peu. Et je pense que c'est important de montrer qu'il peut y avoir vraiment un aspect concret, tangible, qu'on peut palper en fait vraiment dans le sens où on utilise le toucher quoi avec ses sens en fait. Il y a une expérience sensorielle aussi là-dedans qui me paraît intéressante d'explorer. Ça ne peut qu'aider aussi à donner effectivement du sens. Là, si on parle de donc si on revient au Bagnodier sur une pensée algorithmique ou une logique, à le transposer dans un autre cas en fait. Alors ce que vous avez développé dans le cadre du Bagnodier, peut-être que ce ne sera pas transposable à n'importe quel casse-tête, mais peut-être que dans des casse-têtes précis, ce sera le cas. D'ailleurs, c'est le cas. Il y a d'autres casse-têtes pour lesquels finalement le mécanisme algorithmique, c'est le même. Et on va penser la même chose. C'est juste que la matérialité est complètement différente. En fait, on a même des bagnodiers qui sont sous des formes cachées, où on se dit, mais c'est quoi ce truc? C'est complètement différent. Et en fait, dans la façon d'agir sur le casse-tête, une fois qu'on réfléchit un petit peu derrière aux actions, bah, on se retrouve à se dire, mais c'est exactement les mêmes actions que sur mon bagnodier. Sauf que, en termes de gestes, c'est pas la même chose parce que c'est pas le même objet. Mais en termes de logique algorithmique derrière, c'est pareil. Donc, ça pour moi, ça contribue en fait, à, si on parle en termes d'étudiants ou d'élèves, en fait, eh bien de se faire une boîte à outils en fait, de pensée par exemple algorithmique ou de notions, de compétences qu'on serait capable en fait de remobiliser dans un autre cadre et de se dire ça marche ou ça marche pas. Mais au moins, on n'est pas désemparé face à une situation en se disant qu'est-ce que je dois faire ? Ben non, là, en fait, je vais tester ça. Bon, pas ça marche pas, c'est pas grave. Je teste autre chose. Et puis, on se crée en fait comme ça aussi des façons de faire qui me paraissent intéressantes en fait. Donc ça ouvre aussi l'éventail finalement de la boîte à outils mathématiques qu'on peut avoir et qu'on essaye de mobiliser quand on est face à un problème, quelle que soit la nature du problème. À mon sens, en fait, aussi les jeux, alors de manière générale, hein, les jeux donc combinatoires ou les casse-têtes aussi, mais surtout les jeux combinatoires, ça développe des compétences que j'appelle un peu des compétences transversales en mathématiques, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous jouez à un jeu combinatoire que vous allez être meilleur forcément en géométrie ou vous allez être meilleur calcul différentiel dans un point très précis des mathématiques. Par contre, bah, ça va vous aider à anticiper les coups de votre adversaire, de penser à ce que vous allez jouer et à ce qu'il va pouvoir vous répondre, à une sorte de cause-conséquence en fait sur les actions que vous allez mener, d'émettre des hypothèses. Tiens, si je joue ça, et si lui fait ça, eh ben peut-être que je vais pouvoir jouer ça. Et en fait, de pouvoir aussi, là pour le coup, vraiment éprouver en fait votre hypothèse sur un plateau de jeu, et puis se dire ah bah non, concrètement ça n'a pas du tout marché puisque je n'ai pas la bonne réponse ou j'ai pas la bonne réponse de mon adversaire par rapport à ce que j'avais imaginé. Donc je revois mon hypothèse, refonde une nouvelle hypothèse et je la teste. Et en fait, je construis comme ça finalement ma connaissance. Et vous voyez qu'on n'est pas en train de se dire bon, on est en train d'apprendre la division euclidienne ou on est en train d'apprendre je ne sais quoi de très précis par rapport à un programme mathématique par exemple, mais on développe en fait une façon de faire finalement mathématique, une sorte de compétence dans de la recherche en fait aussi. C'est ce qu'on attend quand on fait de la recherche. Voilà, on se pose des questions, on les éprouve, on n'a pas les bonnes réponses, on reteste autre chose, etc. Donc on est sur des choses peut-être un peu plus transversales en mathématiques, bien qu'il y ait des jeux pour lesquels on peut mettre de l'arithmétique si on a envie de mettre de l'arithmétique, mais c'est peut-être pas l'intérêt propre des jeux combinatoires. Moi, je pense que c'est ça, c'est tous ces aspects transversaux en fait qu'on va retrouver dans quasiment toutes les activités mathématiques en fait.
Donc finalement, tous ces casse-têtes et ces jeux combinatoires sont bien loin d'être si futiles je ne sais plus quel était le chercheur ou l'écrivain que vous mentionnez au début de l'émission qui disait que
c'était Jérôme Cardan, oui, voilà, qui disait c'est un passe-temps qui en soi est inutile. Voilà,
inutile même, voilà, mais au-delà de futile, qui est inutile finalement, utilisé à des dessins, j'allais dire, à des fins très sérieuses, en tout cas dans des contextes scolaires, on est bien loin d'un casse-tête comme jeu d'enfant finalement, ou considéré en tout cas comme un simple jeu d'enfant qui ne sert qu'à se distraire.
C'est ça, et c'est quelque chose qui... même quand on prend les ouvrages de récréation mathématique qui sont parus au XVIIe, XVIIIe siècle, il y a une sorte un peu des fois de condescendance en fait de la part des savants contemporains qui disaient oui bon bah c'est bien, c'est des amusements, mais en gros, enfin, je caricature, mais bon, c'est pas très sérieux, quoi. Puis oui, c'est bon, il fallait que ça soit en concordance avec la morale aussi, hein, de l'époque. Bon, bah, c'est bien, mais enfin, ça va pas très loin et c'est jamais vraiment considéré comme étant des développements mathématiques importants. C'est pas en ça qu'on reconnaît les talents d'un savant ou d'un auteur à cette époque-là. Donc, c'est souvent considéré de la sorte, c'est vrai. Et alors, les jeux et les casse-têtes, qui est assez, enfin pas ambigu mais paradoxal, c'est que jusqu'à un certain âge, enfin vous allez en classe de maternelle, vous allez jusqu'au cycle 2 quasiment, il y a énormément de manipulation, il y a énormément de choses qui passent par par le jeu. On manipule voilà des objets, des choses, alors pas que pour les mathématiques, mais aussi pour les mathématiques. Et il se passe que à un moment donné, on cherche à s'abstraire de tout ça, de cette manipulation, matérialité, pour voilà, être dans quelque chose où on doit faire, voilà, on doit poser des opérations de tête, on doit faire des choses de tête, et où en fait on abandonne un petit peu en fait cette manipulation. Et en fait c'est assez, enfin, je dis pas, c'est pas dommage, enfin si c'est un peu dommage, mais ça c'est pas le cas de tout le monde, et qu'il y a des enseignants qui continuent de le faire, et je trouve ça très bien. Et moi je milite pour l'usage du jeu en classe sous des formes diverses et variées. C'est que voilà, ce n'est pas perdre son temps que de faire des jeux en classe, et ça n'est pas contre-productif en fait. Et on peut tout à fait jouer et apprendre en même temps, et même remédier à des problèmes si on a des élèves en difficulté aussi par le jeu. Ça se fait très bien. Donc c'est effectivement ne pas négliger ces choses qui nous paraissent qui, sous couvert d'être sous une casquette de divertissement ou d'amusement ou d'activité ludique, ça peut être quelque chose de sérieux, ou en tout cas générateur d'un savoir en fait, quel qu'il soit.
Et bien justement, c'est une parfaite transition pour la suite de mon propos, car un autre objet qui nous paraît extrêmement futile parfois, ou inutile pour d'autres personnes, c'est le téléphone portable. Sauf que, de plus en plus, dans le monde de la recherche, se mettent en place des projets de recherche-action et de recherche participative. Ces recherches permettent à des citoyennes et des citoyens de participer à la construction de ces fameux savoirs. Ils et elles sont alors équipés d'un objet qu'on peut appeler objet intermédiaire, voilà, qui fait le lien entre le labo et le terrain. Ça peut être un capteur d'air, mais régulièrement, c'est le téléphone qu'on utilise en installant, par exemple, une application pour recenser des espèces de la faune ou de la flore. Et donc, pour les téléphones, évidemment, qui sont équipés de caméras et de micros. Mais donc, aurait-on toutes et tous un objet scientifique ou un objet porteur de savoir dans nos poches ? C'est à ça que Crystal s'est intéressée pour cette émission.
Victor parlait du microscope comme objet scientifique qui continue de révolutionner la science, mais figurez-vous que les microscopes sont partout. Regardez dans votre poche, vous avez sûrement un microscope qui s'y cache.
Oui, enfin, bon, si j'avais un microscope dans ma poche, je pense que j'aurais un peu de mal à me déplacer, je pense.
Je parle bien de votre téléphone. Et oui, notre smartphone a plus d'un tour dans son sac. Mais vous pourriez me dire, on le regarde plusieurs fois par jour, mais pourtant, on n'y voit pas vraiment plus près. Justement, on peut transformer son téléphone en microscope. J'ai découvert ça en suivant un cours très populaire il y a quelques années à l'Université Paris-Sud, appelé Smartophonique. On va utiliser notre smartphone, non pas pour envoyer des messages, mais plutôt pour s'initier à la méthode scientifique. Chaque étudiant, étudiante, élabore son protocole expérimental et valorise ses résultats en les présentant sur un support de son choix. Audio, vidéo, poster, présentation, ou même un escape game. Tout ce qui vous passe par la tête, tout est possible. L'idée a été développée par l'équipe La Physique Autrement, qui est spécialiste de la vulgarisation scientifique. Loin des cours ordinaires dans lesquels on est assis sur une chaise à écouter passivement un ou une spécialiste parler pendant des heures, dans cette option, on est acteur-actrice. Libre de se déplacer, de sortir de la salle ou même du bâtiment, bricoler et surtout choisir notre thématique d'étude. Ainsi, on peut s'amuser à vérifier avec notre smartphone des lois théoriques de manière expérimentale, parce que c'est fun, non ? Je vous cite quelques exemples. Si on a un doute sur les calculs décrivant le mouvement d'un corps sur Terre, on peut vérifier nous-mêmes en mesurant par exemple la force gravitationnelle terrestre. On peut aussi étudier l'effet stroboscopique pour comprendre, par exemple, pourquoi les hélices d'un hélicoptère nous paraissent immobiles dans certaines vidéos. Pour comprendre pourquoi le son d'un éclair nous parvient bien plus tard que la lumière, on peut vérifier la vitesse de propagation du son dans l'air ou même dans l'eau.
Ça a l'air super ça comme mode d'apprentissage, je pense que j'aurais adoré suivre ce cours. Et donc toi tu t'es amusé à construire un microscope avec ton téléphone.
J'ai même fait de mon téléphone un microscope portable. C'est très simple et très rapide, je m'explique. En fait, il suffit de poser votre smartphone à l'horizontale sur une table, l'objectif frontal qui sert à faire des selfies pointant vers le haut, et de disposer une gouttelette d'eau à l'aide d'une pipette sur l'appareil photo. Cette goutte agit comme une lentille convergente, une loupe, qui grossira l'objet. Il faut ensuite placer l'objet que vous voulez observer à la bonne distance du téléphone où est posée la goutte pour obtenir une image nette.
J'ai envie de le tester immédiatement là quand je rentre chez moi. Ça paraît très très simple, aussi simple que de prendre une photo. Et en dehors des expériences de microscopie avec photo, comment on fait pour prendre des données ?
Avant de mettre une goutte d'eau sur l'objectif de votre téléphone, il faut télécharger l'application gratuite Fifox, disponible en français sur toutes les plateformes. Elle vous permettra de mesurer, analyser en temps réel et transférer vos données en quelques secondes. Au-delà de la microscopie, vous pourrez donc découvrir les capteurs présents dans votre smartphone, par exemple un magnétomètre pour mesurer le champ magnétique, un gyroscope pour la vitesse de rotation. Vous pourrez aussi mesurer l'intensité lumineuse ou sonore, il y a même un applaudimètre pour mesurer les applaudissements. Pour certains modèles, on peut même mesurer la pression, et bien d'autres, oui, tout ça dans votre smartphone. À partir de là, tout est une question d'imagination et de bricolage. Vous pouvez maintenant mesurer à peu près tout ce qui vous passe par la tête, c'est donc à vous de jouer. Et si vous manquez d'idées, allez donc faire un tour sur le site vulgarisation.fr de l'équipe La Physique Autrement.
Eh ben, je n'avais aucune idée que tous ces capteurs étaient présents dans mon téléphone. Je me permets d'épeler l'application dont tu viens de parler, donc Fifox, P-H-Y-P-H-O-X. Merci beaucoup Christelle pour cette première chronique. Justement, quand on parle de tracer la matérialité des savoirs et des instruments qui nous ont permis, et les objets qui nous ont permis de porter des savoirs ou des savoirs scientifiques, donc on a parlé dans cette émission des microscopes, on parle des téléphones, des jeux, des casse-têtes. Mais pour que la matérialité des savoirs continue d'exister, il est primordial que des témoins de ces objets soient préservés, répertoriés, inventoriés. C'est justement l'objet de la mission PathTech de Nantes Université. Et notre bénévole Célie est allée à la rencontre d'Émilie Chevalme qui lui a ouvert les portes de certaines réserves.
On est dans un ascenseur et on va monter au 5e étage de la fac de médecine.
5e étage.
Bonjour, je suis donc Émilie Chevalme, responsable de la mission PathTech Pays de la Loire. PathTech pour patrimoine scientifique technique contemporain. Contemporain, on entend depuis les années 1950. Avant, c'est plus ancien et globalement, c'était déjà un peu conservé. Et c'est une mission très ancienne, c'est même en fait la première mission de ce type en France. Celle qui est née à Nantes Université. La collecte des objets, ça permet de donner une matérialité aussi à cette collecte de l'histoire des laboratoires. Puis c'est aussi l'évolution des technologies, l'évolution des matériaux, en plus de la documentation des travaux de recherche. On est sur plus de 3500 objets inventoriés et un certain nombre d'objets qui doivent encore l'être.
On rentre dans une petite salle, la salle numéro 530.
Et l'idée de la mission PathTech, c'est un peu de se faufiler dans les espaces que l'université peut nous mettre à disposition. Ici, dans ces trois salles en enfilade, on a environ, un peu plus de 300 instruments et objets conservés depuis le début de la mission, donc la fin des années 90. Donc de la verrerie, des microscopes, beaucoup. Dans ce bâtiment-là, Veil, le bâtiment de la fac de médecine, les collections PathTech, c'est principalement des collections dans le domaine médical ou pharma. Il y a d'autres réserves, notamment sur le campus Lombarderie, où on a des collections un peu plus chimie, physique, etc.
Il y en a partout.
On peut ouvrir des meubles et découvrir
des boîtes, des cartons.
Tout à fait. Avec plein d'instruments, parfois un peu documentés, des laryngoscopes.
Et dans cette salle, il y a également des béquilles, des prothèses de jambes, des balances, beaucoup de documentation papier, des DVD.
L'objet, il n'a pas tellement d'intérêt. Un microscope, c'est un microscope. En revanche, un microscope qui a été utilisé par telle personne pour mener un projet de recherche qui a eu une importance particulière pour l'histoire de l'Université de Nantes, là, ça commence à être vraiment très intéressant, après, à valoriser, quoi.
Est-ce que y a d'autres moments où ces salles peuvent être accessibles, ou est-ce que les informations que ces objets existent, où est-ce qu'on peut les trouver, comment on peut éventuellement les voir, est-ce que parfois ils sortent pour des expositions, pour la fête de la science par exemple?
Effectivement, on sort quelques objets parfois dans le cadre d'opérations de valorisation. Ça a été le cas là pour les journées européennes du patrimoine et du matrimoine. Il faut savoir qu'on est une petite équipe au département archives, culture et patrimoine. Et sur la mission PADSTEC, actuellement, je suis la seule. Donc pour mener beaucoup d'opérations de valorisation, de médiation, c'est pas forcément évident. En revanche, sur le territoire nantais, il y a des musées, des structures qui, elles, sont intéressées par les objets de la mission, qui les ont repérés et qui parfois se tournent vers moi pour les accueillir le temps d'une exposition temporaire. Et là, c'est génial, c'est la meilleure mise en lumière qu'on pourrait faire sur ces collections-là. Actuellement, au musée d'Aubry, l'exposition Cœur ouvert présente dans la première salle un grand nombre d'objets de la mission PADSTEC, des cœurs en papier mâché, un modèle anatomique, les stéthoscopes du docteur Laennec, des planches pédagogiques anatomiques de cœur, et ça leur donne un écrin à ces objets-là que nous, on n'aurait pas pu offrir.
Alors, on est dans la pièce du milieu qui a un peu plus une vibe chimie, avec beaucoup d'objets en verre.
Et ça, c'est des objets hyper intéressants aussi pour l'histoire de l'université. Parce qu'il y avait en fait des maîtres verriers qui étaient présents sur les universités. Et la majorité de ces verres-là ont été fabriqués par les verriers de l'Université de Nantes.
Des très grandes pipettes, des ballons, des tubes à essai, des instruments qui ressemblent à des batteurs de cuisine, mais qui ne le sont pas, qui ont l'air d'être plutôt des balances.
Ça, c'est des balances
de précision.
Oui, tout à fait. Une table de contention pour rats. Ben, il faut bien les maintenir pour les disséquer, les opérer.
Incroyable. Et sur le reste de la table, il y a des très 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 grosses ampoules qui font à peu près la taille de mon avant-bras et qui sont des lampes à rayon X. Il y a aussi plein de petites lentilles convexes, concaves, sphériques, prismatiques.
En sauvegardant ces instruments, on sauvegarde non seulement des objets, mais aussi les pratiques, les savoir-faire et les cultures scientifiques qui ont façonné notre époque. PADSTEC, c'est une mémoire de la science en train de se faire.
Merci beaucoup. C'était un beau mot de la fin.
Le son des sciences au Labo des Savoirs.
Si la matérialité des savoirs scientifiques n'est pas très connue du grand public, elle ne l'est parfois pas davantage dans le monde académique. Donc j'en profite pour adresser un mot à toutes les personnes qui nous écoutent et qui travaillent dans des laboratoires situés en Pays de la Loire. Lorsque vous déménagez, que vous achetez de nouveaux instruments ou simplement si vous faites du tri, n'hésitez pas à contacter la mission PADSTEC, PADSTEC, pour que le patrimoine matériel de la recherche ne parte pas à la poubelle et puisse être répertorié, inventorié et valorisé. Et d'ailleurs, ces missions-là sont régionales. Voilà, si d'autres laboratoires en dehors des Pays de la Loire nous écoutent. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à Lisa Roucheté, enseignante-chercheuse en histoire des sciences à l'Université de Bretagne occidentale à Brest. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Ben merci à vous, merci pour l'invitation.
Merci à Émilie Chevalme de nous avoir ouvert les portes des réserves de la mission régionale du patrimoine scientifique et technique contemporain de Nantes Université, dont l'acronyme est, vous l'aurez deviné, PADSTEC. Merci d'avoir répondu à nos questions également. Et je le rappelle, pour sauvegarder les pratiques et mémoires de la science en train de se faire, n'hésitez pas à contacter la mission.
Merci également à Célie pour son reportage et à Crystal et Victor pour leur chronique. Cette émission a été préparée par Julie et Merlin et réalisée par Cécile Berga, que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur notre site ou nos réseaux sociaux et on vous dit à très vite pour une nouvelle émission.
Radio G. 101.5 FM.
Vous aimez Radio G ? Soutenez-la. En faisant un don à notre association reconnue d'intérêt général, vous contribuerez à son développement et à la réalisation de ses nombreux projets culturels, radiophoniques et d'éducation aux médias. Radio G compte sur vous. Rendez-vous sur radio-g.fr dans la rubrique Faire un don. Votre participation sera déductible de vos impôts. Alors, n'hésitez plus.
Radio G 101.5 FM. Walking in the midnight sun.